À Kisangani sur 94,9. Avant de nous rendre à Kisangani, sachez que aujourd'hui nous célébrons la journée mondiale contre le travail des enfants en ratifiant la convention numéro 182 de l'Organisation internationale du travail. Les pays signataires s'engagent à agir immédiatement pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. Cette convention a été la plus rapidement ratifiée de l'histoire de l'OIT depuis sa création en 1919. Il faut savoir que la journée mondiale contre le travail des enfants sera marquée ce 12 juin par des milliers d'événements dans une multitude de pays à travers le monde. L'accent sera mis sur la nécessité d'améliorer l'accès des enfants à l'éducation pour répondre aux problèmes du travail des enfants. Et aujourd'hui, l'OIT estime qu'environ 165 millions d'enfants âgés entre 5 et 14 ans sont impliqués dans le travail des enfants. Nous aurons certainement l'occasion d'en parler avec notre invité qui va bientôt nous rejoindre pour ce problème concernant justement le travail des enfants. Mais déjà, vous pouvez intervenir avec vos SMS au 081 070 20 50. Et pour ceux-là qui nous suivent sur le net, écrivez-nous à action@radiocapi.net. Nous avons justement notre invité au bout du fil qui viendra nous en parler dans un instant. Mais d'abord, rendons-nous à Kisangani pour parler du mécontentement de la population forestière d'Akiti. Il faut savoir que la grogne de la population Akiti, territoire à plus de 500 km au nord de Kisangani, cette grogne population, de la population justement, précisément de la collectivité de Bolongola et des groupements de Bozaki et Bolende, ont exprimé auprès de leurs députés provinciaux leur mécontentement envers la société industrielle forestière du Congo, Siporco, en sigle. Alors justement, nous en parlons aujourd'hui avec Anselme Mansoua pour avoir de plus en plus de détails là-dessus. Anselme, vous êtes avec nous. Quel est l'état des lieux qu'on peut faire aujourd'hui sur l'exploitation forestière dans le territoire d'Akiti?
Eh bien, Nikon Gata, ce qui est évident sur ce terrain, la Siforco travaille normalement. Le bois, comme d'habitude, quitte le territoire conformément au protocole d'accord signé avec les autorités provinciales, telles que le déclarent certains habitants d'Akiti. Mais selon l'honorable Gilbert Mokoto, il n'existe pas un contrôle efficace pour veiller sur les taxes provinciales conformément à la sortie des grumes de la province orientale. On écoute.
En 2007, pendant les vacances parlementaires du 15-12-2007 au 15 mars 2008, l'Assemblée provinciale nous a confié une mission officielle pour étudier les conditions en vue de créer un poste frontalier pour contrôler les grumes sortant de la province orientale vers l'Équateur. Car depuis que la Siforco exploite les bois en province orientale, il n'y a aucun service de contrôle pouvant donner les statistiques réelles de notre équipe de bois exploités et qui constitue un manque à gagner terrible pour la province au profit de l'Équateur où Siforco a mis ses bureaux. À la fin de chaque trimestre, le chargé de l'environnement du territoire d'Akiti sera à la Siforco pour constater seulement les statistiques données par Siforco sur base des documents déjà établis unilatéralement par cette dernière. Cela prête à des arrangements et des magouilles de toutes sortes. Prenons les statistiques données par Siforco 2007. Premier trimestre, Siforco avait exploité 11 811,595 m3. Taxe provinciale, c'était $7,087. Cet argent vient chez Kisangani et une taxe pour EAD, $708. Deuxième trimestre, 21 124 m3. La province aille pour sa taxe, $15,587. Pour le territoire, $2,598.
L'enseignement a suivi. Alors, malgré ce manque de contrôle efficace, il y a quand même de l'argent qui entre dans le trésor public, tel que vient de le dire l'honorable Gilbert Mokoto. Alors, est-ce qu'il y a des conséquences favorables en rapport avec ces entrées au profit de la population d'Akiti?
Mais concernant l'honorable Gilbert Mokoto, les signes de développement jusqu'à présent ne sont pas perceptibles dans le groupement où sont menées ces exploitations de bois. On l'écoute une fois de plus.
Mais si vous arrivez là-bas, vous allez constater qu'il n'y a rien. La vie est déplorable, les routes sont en mauvais état, ça ne va pas. C'est pourquoi nous avons signé un accord que la société puisse nous arranger la route à partir de Mombasa jusqu'à Akiti.
Les écoles, par exemple.
Les écoles. Il a conçu qu'une seule école. Mais cette école même est inachevée.
Mais il y a quand même des écoles.
Non, il y a des écoles. Les écoles, pas comme ça. Bon, les enfants étudient d'une façon un peu déplorable. Vraiment, c'est catastrophique. Mais pourquoi nous avons accepté que la société puisse venir exploiter nos bois, à respecter aussi nos protocoles d'accord. Les centres de ne sont pas construits, et ainsi de suite. Nous traversons vraiment une vie très difficile. Bon, on sait qu'est-ce qu'on doit faire. La population se lamente au jour le jour que vous, les députés, vous êtes là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est en train d'exploiter nos forêts. On ne sait absolument rien. Alors bon, c'est pourquoi nous déplorons ça devant les autorités qui puissent trouver des solutions le plus vite possible.
Voilà, donc on attend que les autorités puissent trouver des solutions. Nous allons recevoir justement le ministre provincial en charge de l'environnement et l'agriculture pour la province orientale. Alors, quelle est la réaction de l'entreprise face aux propos de l'honorable?
Pour la Siforco, le cahier des charges est bien respecté de sa part, sauf qu'elle ne sait pas avancer dans l'application de ce cahier si la population bénéficiaire ne s'y implique pas. Écoutons à cet effet l'ingénieur Zola de la Siforco.
Nous sommes en train de mener des actions telles que nous sommes convenus. Il y a des choses où il y a des retards. Là, c'est dû à, aux clauses qu'on a liées sur une fabrique, pas de briques. Nous non plus, on ne peut pas construire des écoles. Là, c'est bien sûr. Mais les routes sont en train d'être faites. Il y a un bulle qui est affecté là-bas et qui travaille comme il doit travailler. Chaque fois que nous entamons les groupements, on est en contact avec toutes les autorités politiques et administratives. Pour le groupement, les limites ne sont pas définies. Mais ils qui nous disent que maintenant vous êtes dans tel groupement, et dès qu'on arrive, là on s'entend, on fait le protocole ensemble avec les autorités politiques et administratives.
On va faire maintenant le suivi avec notre invité, Jean-Claude Essoufa El Fani, ministre provincial en charge de l'environnement et agriculture. Nous invitons tous ceux qui nous suivent à travers le pays à intervenir avec des questions, des témoignages, des propositions éventuellement au 081 070 20 50. En ce moment, soir, à la prochaine.
Merci beaucoup, Nicole Gata. C'est une précision, ce n'est pas El Fani, c'est Al Fani, Al Fani.
Ok, merci. Allez, à bientôt.
Merci.
Découvrir la culture de votre pays dans toutes les langues du pays. Découvrir les cultures du monde entier juste en tendant l'oreille. Théâtre, cinéma, littérature, musique, coutumes, traditions, danse, festival, pente. Prêtez-nous vos oreilles et nous serons vos yeux tous les samedis au Café Métissage sur Radio Okapi. De 15h à 19h, heure de Kinshasa, de 16h à 20h, heure de l'Est. Okapi Métissage sur Radio Okapi, c'est juste pour le plaisir.
Nous avons justement notre invité en ligne pour rappeler à ceux-là qui viennent de nous rejoindre. Sachez que nous parlons de la grande de la population d'Akiti, territoire à plus de 500 km au nord de Kisangani. Retenez que cette population, précisément celle de la collectivité de Bundungula et des groupements de Bozaki et Bolende, ont exprimé auprès de leurs députés provinciaux leur mécontentement envers la société forestière industrielle du Congo, Siforco en sigle. Ils accusent la Siforco installée depuis 2004 à Akiti de ne pas respecter le cahier des charges signé pour les travaux de développement dans leur contrée. Vous avez suivi tout à l'heure le point de vue d'un honorable à ce sujet. Alors pour cette population, le retard enregistré est dû au refus des populations bénéficiaires de participer au démarrage des travaux proprement dits. Vous essayez aussi de donner votre point de vue là-dessus, n'hésitez pas au 081 070 20 50 puisque nous avons notre invité Jean-Claude Essouka Alfani, qui est ministre provincial en charge de l'environnement et de l'agriculture en province orientale, qui nous a rejoint. Jean-Claude Essouka Alfani, bonjour.
Bonjour, madame.
Alors aujourd'hui, vous avez certainement suivi, vous avez découvert qu'il y a un problème de mécontentement au sein de la population forestière d'Akiti, qui se plaint, elle accuse en fait Siforco de ne pas avoir respecté son cahier de charge. Comment vous, en tant que ministre provincial, réagissez-vous face à ce problème?
Oui, évidemment, la situation semble générale au niveau de toutes les entreprises forestières qui n'arrivent pas à respecter les dispositions du code forestier. Et parmi ces dispositions, il y a la signature d'un cahier des charges, n'est pas suffit que les obligations spécifiques du combat aux concessionnaires, et qui comprend notamment la réalisation d'infrastructures socio-économiques. Et si la population a réagi, la population a raison du fait que l'entreprise ne sait pas respecter les dispositions du cahier des charges. Il y avait effectivement un problème, parce que les cahiers des charges n'avaient pas encore été négociés, mais à partir de la manifestation de la population, les cahiers des charges a été signé entre les deux parties, et nous attendons maintenant l'exécution.
Oui, mais juste là, nous avons suivi tout à l'heure l'honorable Gilbert Moncoton qui nous a dit qu'il n'existe pas un contrôle efficace pour veiller sur les taxes provinciales conformément à la sortie des grumes de la province orientale. Est-ce que cela a été modifié en fonction de nouveaux contacts que vous venez d'avoir?
Oui, madame, je vois que vous posez des problèmes différents.
Oui.
Il y a un problème de cahier des charges et il y a un problème de perfection des taxes.
Oui.
Le cahier des charges, il est différent de la perfection des taxes. Le cahier des charges parle de réalisation des actions socio-économiques au profit des populations riveraines, n'est-ce pas? Le problème en rapport avec la surveillance des taxes dues à la province, nous sommes en train de prendre des dispositions parce que c'est vrai que la porte de sortie des grumes qui sont exploitées au niveau de la forêt d'Akiti, la porte de sortie c'est dans la province de l'Équateur, et nous avions envisagé d'installer un poste de surveillance en vue d'arriver à évaluer toutes les quantités de grumes, n'est-ce pas, qui sont exploitées au niveau de la province. En évaluant cette quantité, il est possible maintenant qu'on puisse voir clair en rapport avec les taxes qui peuvent être perçues à l'initiative de la province.
Oui, quand vous dites qu'il est possible qu'on puisse voir clair, donc ça veut dire que s'il n'y avait pas eu ces plaintes de la population, il n'y aurait pas eu de modification à ce sujet?
Non. La population est dans ses revendications, elle réclame l'application des cahiers de charges. Hein, la population ne réclame pas la perception des taxes par la province. C'est le rôle évidemment du gouvernement provincial, dans le cadre de la maximisation de ses recettes, d'essayer de voir comment arriver, n'est-ce pas, à assainir les secteurs de perception des taxes.
Oui, alors justement, puisque aujourd'hui l'État se dit qu'il faut contrôler aussi les taxes, alors au niveau des taxes provinciales, conformément à la sortie des grumes et de la province orientale, quelles sont en fait les décisions que vous avez eu à prendre à ce sujet en fonction, surtout du fait que vous êtes ministre provincial en charge de l'environnement et de l'agriculture?
Oui, tout à fait. Je vous ai dit que une décision, c'est en rapport avec l'installation d'un poste, n'est-ce pas, de contrôle à la sortie d'activer les patères. Parce que comme les grumes passent par là, il faudrait que nous puissions installer un poste là pour que les agents qui seront commis à ce poste puissent effectuer cette surveillance.
Oui, mais normalement maintenant, ces entreprises, notamment si Forco, paiera combien si on doit parler des taxes provinciales? Oui. Ça sera estimé à peu près à combien, ces taxes provinciales?
Non, ce sont des redevances proportionnelles. Des redevances proportionnelles, elles sont en fonction de la quantité de produits. Et donc, il n'y a pas une taxe fixe, c'est que ça dépend de la quantité de produits qui est exploitée.
Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait quand même des fraudes, monsieur le ministre?
Oui.
Vous ne craignez pas qu'il y ait quand même des fraudes, des cas de fraudes?
Non, parce que comme nous sommes en train déjà de prendre des précautions de manière à pouvoir assainir ce secteur, je crois que les choses vont marcher normalement dans les brefs à venir.
C'est vous qui le dites. Hein. Alors revenons au cahier de charges. Si aujourd'hui il y a modification dans le cahier de charges, qu'est-ce que cela pourrait avoir comme conséquence sur la population?
Oui, mais vous savez, qui dit le cahier de charges? Le cahier des charges dit qu'il faudra qu'on arrive à réhabiliter un tronçon routier, il faut qu'on construise quelques centres de santé, il faut qu'on construise quelques écoles, il faut qu'on construise la résidence des chefs de collectivité. Donc ce sont des actions d'intérêt communautaire. Évidemment, la population, si on arrivait à réaliser ces actions-là, va trouver son compte.
Quand vous dites qu'on arrive à réaliser ses actions, ça signifie que vous n'êtes pas très sûr que l'entreprise Forco va réaliser ses actions.
Non, mais vous savez, c'est une convention qui a été signée entre les parties. Maintenant, nous, l'État, nous devons chercher à veiller à l'application de cette convention-là. Évidemment, c'est notre rôle. En tout cas, nous allons tout faire de manière à pouvoir forcer la main à la société pour qu'elle respecte scrupuleusement les dispositions de ce cahier de charges qui venaient d'être convenues par les deux parties.
Et hormis Siporco, est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui évoluent de ce côté-là?
Oui, dans la province, vous connaissez très bien que la province orientale, c'est une province à vocation forestière. Il y a beaucoup d'entreprises forestières qui certaines de ces entreprises-là avaient complètement le travail en rapport avec la réalisation des dispositions des cahiers de charge, mais d'autres, évidemment, il y a toujours des petits problèmes par-ci par-là entre ces entreprises et les populations riveraines.
Ben oui, Jean-Claude Essouka, Alpani, nous rappelons encore que vous êtes ministre provincial en charge de l'environnement et agriculture. Sifourco est installé dans cette partie du pays depuis 2004. Quatre ans plus tard, si vous étiez demandé d'évaluer les travaux, disons, au bénéfice de la population réalisés par Sifourco, quelle est la note que vous accorderez à Sifourco?
Non, mais vous savez, la population, elle n'est pas naïve. Hein. Elle est arrivée à manifester qu'elle n'est pas convaincue par ce que Sifourco est en train de faire. Et je crois que la note qu'on peut donner jusque-là, c'est que le bilan en rapport avec la réalisation des dispositions de cahiers de charge n'est pas très positif. C'est pourquoi nous allons demander à cette société de chercher son mandat de manière à pouvoir améliorer son bilan en rapport avec la réalisation des actions des cahiers de charge.
Alors, c'est pour eux que ceux qui étaient chargés de faire le suivi ou les contrôles de l'exécution de ces cahiers de charge ont failli peut-être à leur mission. Comment comptez-vous vous y prendre pour que les mêmes erreurs ne se reproduisent plus? Autrement dit, quel est le mécanisme que vous allez mettre sur pied pour enfin permettre que les actions qui seront menées par Sifourco soient réellement au bénéfice de la population d'Akéti?
Oui, d'abord, je venais d'amorcer une inspection générale de toutes les entreprises forestières qui sont implantées dans la province orientale. C'est-à-dire que je vais personnellement visiter les chantiers de ces différentes entreprises. Et dans cette visite, il y aura un contrôle des régulations administratives, les titres légaux dont disposent les entreprises, et on aura aussi, n'est-ce pas, la vérification du niveau d'exécution des cahiers de charges. Je crois qu'avec le travail que nous venons d'annoncer, nous verrons quelles sont les entreprises qui n'arrivent pas à réaliser les dispositions des cahiers de charges et il y a des sanctions qui sont prévues. Et nous pouvons décider de la suspension de leur activité si ces entreprises ne veulent pas se conformer aux dispositions des cahiers de charges.
Mais entre deux parties, bon, disons que chacune d'elles tire les bras de son côté. C'est pourquoi, quand elle dit que le retard enregistré quant aux réalisations de l'exécution du cahier des charges, ce retard serait dû au refus des populations bénéficiaires de participer au démarrage des travaux proprement dit. Excellence, monsieur le ministre, vous êtes sans ignorer que dans certaines parties de la province, il y a quand même une certaine résistance. Les gens ne comprennent pas les tenants et les aboutissants des actions menées par certaines entreprises forestières. Est-ce que, à votre niveau, vous avez eu l'occasion de sensibiliser cette population pour leur faire voir l'importance même de ces actions?
Oui, mais vous savez, comme je l'ai dit, la situation paraît générale. Les pays qui s'est englouti dans la misère, n'est-ce pas? Et la population voudrait ainsi que les changements viennent par un coup de baguette magique. C'est que s'il y a des actions isolées, et s'il y a des actions qui se font d'une manière progressive, la population n'est pas contente. Nous verrons aussi à tout cela parce que la convention, c'est une loi des partis. Lorsqu'il y a un cahier des charges qui a été convenu entre les partis, n'est-ce pas? Et s'il y a déjà quelques réalisations avec ça, nous sensibiliserons aussi la population à travers les élus locaux, les députés provinciaux, pour que la population comprenne que c'est une convention et qu'il faut qu'on respecte ça.
Alors si je comprends bien, le cahier des charges en question sera mis à jour, afin de pouvoir donner quand même l'avantage à la population. Si vous pouvez nous faire une idée précise, qu'est-ce qui constituera la particularité de ce nouveau cahier des charges revu et corrigé?
Oui, le cahier des charges, ça prépare globalement des actions d'intérêt communautaire. il y a la construction d'un centre de santé, la construction de quelques écoles, ainsi que l'approvisionnement des écoles à construire en pupitre. Il y a la réhabilitation d'un fossé routier. Globalement, c'est ce qui est retenu dans le cahier des charges.
Et voilà, donc pratiquement, ce cahier des charges répond aux besoins réellement exprimés par la population.
Oui, absolument, absolument, parce que c'est à l'issue des négociations qu'on arrive à signer le cahier des charges, n'est-ce pas ? La population essaie de présenter son désiderata, et l'entreprise du SIC, on négocie et on trouve un compromis, et c'est ce qu'on appelle le cahier des charges.
Est-ce que l'évaluation de ces coûts, de ces besoins, pardon, n'est pas si élevée ? Cela n'est pas, ce n'est pas une corde au cou pour ces entreprises ?
Non, 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 mais l'entreprise, j'ai parlé de négociation, c'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas accepter ne pas les dispositions d'un cahier de charges lorsqu'elle est en mesure, n'est-ce pas, d'arriver à satisfaire pendant un délai raisonnable ce cahier de charges. Évidemment, l'entreprise, si elle compte aussi de ses entrées, c'est-à-dire des recettes que l'entreprise réalise, pour que l'exploitation continue à être rentable.
Mais
c'est vrai, vous connaissez très bien que l'exploitation forestière, c'est une activité rentable.
Ben, parlons également de la fiscalité, parce que ces entreprises trouvent de quoi avoir raison en disant qu'ils payent les taxes. Ben alors, qu'est-ce que l'État fait exactement avec ces taxes ? Parce que l'État aussi est partenaire avec ces entreprises et il a aussi sa part de responsabilité.
Non, 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 je crois que ces entreprises ne peuvent pas confondre entre le paiement des taxes et la réalisation des actions contenues dans le cahier des charges. Donc la loi forestière, le code forestier, arrive à préciser tout ça. Que parmi les obligations d'entreprise, il y a la fiscalité et il y a aussi le cahier des charges. Bon, c'est en rapport à ça que la fiscalité, c'est vrai que les entreprises, quand elles payent, n'est-ce pas, donc leur taxe au niveau de l'État, et avec cet argent-là, il doit y avoir une rétrocession d'abord du gouvernement central au niveau de la province, et ensuite de la province au niveau de l'entité où les voies sont produites. Ce sont des efforts, vous connaissez très bien les débats. En rapport avec la décentralisation, c'est un débat qui continue à alimenter l'opinion. Et au niveau provincial, nous sommes en train de nous organiser de manière à pouvoir commencer à rétrocéder quelque chose. Mais déjà, vous connaissez très bien la manière dont nos entités sont gouvernées. Par exemple, au niveau des territoires, là où les territoires n'ont pas un programme de développement jusque-là, de telle sorte que si il y a la rétrocession qui est faite, et en principe cette rétrocession-là devrait servir à réaliser des actions de développement. Mais le fait que les territoires, pour le moment, n'ont pas encore de programme de développement, et la rétrocession qui est faite des fois, elle n'arrive pas à réaliser des actions de développement en faveur de la population.
Mais parlons justement de cette rétrocession. On peut avoir l'estimation aujourd'hui, c'est à peu près combien jusque-là?
Ah oui, moi j'ai toujours horaire de chiffres, hein. Alors je me réserve toujours à pouvoir communiquer les chiffres.
Mmh. Mais oui, parce que ce n'est plus un secret, le 40% rétrocédé aux provinces, ben alors je ne sais pas comment au niveau de la province cela est réparti, c'est probablement pour éclairer un peu la lanterne de nos auditeurs.
Oui, en termes de clés de répartition, ça c'est connu, on sait que donc au niveau, les 40% qui sont rétrocédés au niveau de la province, on les considère comme 100%, et de ce fait-là, maintenant on rétrocède 40% au niveau des entités qui produisent ces bois.
Oui, alors on va bientôt terminer, Jean-Claude Asika, juste une précision, il y a combien d'entreprises aujourd'hui qui œuvrent là-bas en province orientale dans le domaine forestier?
Oui, pour le moment, nous avons environ 14 entreprises qui exploitent nos bois.
Mais c'est beaucoup, ça signifie que ça rapporte énormément. Hein. Là, nous parlons texte, hein. Ça rapporte énormément à la province, ça devrait normalement rapporter énormément à la province.
Bon, évidemment, je vais vous dire une chose, madame.
Mm.
Vous savez qu'il y a encore un problème, toujours en rapport avec la rétrocession. Vous savez qu'une grande partie des voies exploitées au niveau de la province orientale s'est exportée sous forme de grumes, n'est-ce pas? Et les dédouanements, vous connaissez, ça s'est fait où? Ça s'est fait au niveau du Bas-Congo, n'est-ce pas? Et la province orientale n'arrive pas à bénéficier au maximum de l'exploitation de ces forêts. C'est pourquoi nous avons formulé déjà une recommandation auprès du ministère de l'environnement, du gouvernement central, pour qu'on essaie d'examiner en profondeur cette question-là. Parce que quand vous essayez de comparer ce qui est perçu, par exemple, au niveau de l'exportation par rapport à la taxe qu'on perçoit localement, je crois que c'est ce qui est perçu au niveau de l'exportation qui est beaucoup. Donc il faut maintenant essayer de négocier pour que la province puisse recouvrir ses droits en rapport avec l'exploitation forestière qui s'est fait au niveau de la province.
Alors il y a une réaction qui vient de nous arriver parce que vous êtes très suivi, hein, vous savez, en tant que ministre provincial en charge de l'environnement et agriculture en province orientale. Il y a un auditeur qui nous dit « Nous regrettons que l'exploitation forestière pose problème » et que cela soit au profit de certaines personnes de l'administration et de l'exécutif provincial. Ça, c'est son point de vue. Il y a également cette réaction que nous venons d'avoir de Jean depuis Bounia qui dit « ça pose problème parce que cela ne profite pas à la population, mais plutôt au trésor public ». Nous avons beaucoup d'autres réactions qui nous arrivent, malheureusement on n'a plus beaucoup de temps. Juste pour terminer, monsieur le ministre, tout à l'heure, Siforco nous a dit que en fonction du cahier de charge, de son côté, il n'avait aucun problème. Lui, il aurait plutôt souhaité que la population bénéficiaire puisse réellement s'impliquer. Quelle devrait être l'implication de la population vis-à-vis de ces entreprises forestières?
Non, non, non. Moi, je crois que l'implication dans quel sens? Parce que l'entreprise forestière, elle vient faire son travail, elle récupère une certaine main-d'œuvre, et cette main-d'œuvre est payée, n'est-ce pas? Et l'entreprise a son plan d'activité. L'implication de la population en rapport avec la réalisation des actions contenues dans les cahiers de charges, peut-être il peut s'agir, par exemple, lorsqu'on dit qu'il faut construire, par exemple, une école, et que dans la construction, l'entreprise peut dire que moi, je vais fournir, par exemple, du ciment, je vais fournir du sol, je vais fournir des bois, et je vais fournir aussi des prêts et briques. Alors, la contribution locale, la population, ça peut être, par exemple, la fabrication des briques, n'est-ce pas? Pour que l'érection de l'école soit effective. Donc, peut-être à ce niveau-là.
Oui. Alors, je crois que vous êtes d'accord avec nous qu'il faudrait une grande sensibilisation auprès de la population pour qu'elle arrive à aider toutes ces entreprises à respecter réellement leur cahier de charge, parce que la population, elle aussi, doit s'impliquer, et peut-être des fois, elle ne comprend pas cela. Jean-Claude Desoupa et Alphanie, on va s'arrêter là. Nous rappelons que vous êtes ministre provincial en charge de l'environnement et agriculture en province orientale. Merci d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine.
Merci, madame.